Troisième partie. Chapitre 9. Pacte d'amitié. Ferdinand Voine n'était pas fille à chercher des transitions, ni de longues préfaces. En quittant le petit salon fraise, elle courut au parloir des élèves, où elle était sûre de trouver à cette heure Louise Miserlet. Elle l'y trouva en effet, écrivant une missive à sa grand-mère, et si l'on en jugeait par l'air navré qu'avait Louise en les traçant, ses lignes n'éguéraient que médiocrement Château Pointu. Deux ou trois autres pensionnaires, à l'extrémité de la longue table ou dans les embrasures des fenêtres, étaient plongés également dans leur correspondance. Le reste de la bande, au salon, répétait des chœurs et des morceaux de musique pour se préparer à une petite soirée dont Mademoiselle Audembert avait déjà lancé les invitations. Ferdine, sans rien dire, vint s'asseoir à côté de Louise, qui tressaillit, et posa sa plume dans un visible émoi. Elle n'osait ouvrir la bouche, car elle avait déjà commis tant de bévues et trouvé si peu d'indulgence. « Si tu veux, » commença Ferdine à voix basse, tournant le dos aux autres pensionnaires qui levaient les yeux et les regardaient curieusement, car on savait les rapports fort tendus entre Million et la reine Frédégonde, « si tu veux, nous nous tutoierons. »« Ami, alors ?» murmura Louise, saisie d'un tremblement. « Oui, ami, à trois conditions. » « Oh, lesquelles ?» fit, pleine de crainte, la pauvre Louise, dont l'extase se dissipait déjà. « La première, c'est que tu ne pleureras plus. Fais attention, tu es en train de commencer, » dit Ferdine d'un ton sévère et réprobateur. « Je suis si heureuse, » plaida Louise. « Est-ce une raison ? À ce compte-là, tu pleureras tous les jours, tantôt parce que tu es heureuse, tantôt parce que tu es malheureuse. » « Non, non, c'est une mauvaise habitude. D'abord, tu te gâtes horriblement les yeux et le teint. »« Et je suis déjà si peu jolie !» dit Louise humblement. « Je ne dis pas cela. Peut-être ai-je eu tort de parler de ton teint. C'est bon pour Léa Gaillère, ces considérations-là. Mais tu te fais mal en pleurant sans cesse. Tu te détraques les nerfs. Je te rends un vrai service si je parviens à t'en corriger. » « Je le crois, Ferdine, je le désire. Oh, que tu es bonne pour moi, je ferai mon possible. Mais s'il m'arrivait de pleurer dans ma chambre toute seule, devrais-je te le dire ?»« Certainement, » répondit Ferdine, très pleine de sa nouvelle mission. « Deux fois par semaine pour commencer, dis, permets-moi de pleurer deux fois par semaine, quand les lettres de grand-maman arrivent, par exemple. » Ferdine haussa les épaules. « Tu ne pleures donc jamais, toi ?» demanda Louise. « Jamais !» À peine ce mot fut-il prononcé que Ferdine rougit prodigieusement. « Quel affreux mensonge je viens de dire !» s'écria-t-elle. « Heureusement que j'y pense à temps. J'ai pleuré, pas plus tard que la semaine dernière, au musée, devant ces horribles fossiles. Et voyons !» J'ai pleuré aussi, ou presque, le jour où Siméon me fit ici sa première visite. Et tout à l'heure, dans le salon fraise, quand Mademoiselle Octavie me posa cette question, elle s'arrêta, étonnée, réfléchissant. Mais oui, j'ai pleuré, oui, trois fois en peu de semaines, et peut-être que j'en oublie. Louise Miserlet, au lieu de triompher et de sourire, lui passa tendrement son bras autour du cou. « Pauvre Ferdine, il fallait que tu eusses bien du chagrin, car tu ne pleures pas comme moi pour des bagatelles. »« Assurément non, » déclara Ferdine, qui sentit qu'elle commençait à aimer Louise Miserlet. « C'est donc entendu, » reprit-elle, « le moins souvent possible, et tu me le diras. Je passe à la seconde condition. » Dans son esprit, la seconde condition devait être « pas de caresses, c'est trop bébé. » Mais ce bras de Louise qui l'entourait lui était moins désagréable depuis qu'un grain d'affection germait dans son cœur. Elle passa donc au troisième point. « Tu comprends, Louise, que personne, et Léa Gaillière moins que personne, ne doit pouvoir dire que je suis devenue l'amie de Million par intérêt. »« Oh, pourquoi ?» fit Louise douloureusement, passant la main sur ses yeux et se mordant les lèvres pour refouler des larmes. « Pourquoi m'appelez-vous Million ? Je n'avais jamais pensé jusqu'ici à cette différence entre moi et les autres jeunes filles. C'est vous qui m'y faites penser. Tiens, regarde ce que j'écrivais à grand-mère. » Elle poussa devant Ferdine sa feuille de papier à lettres, puis la retira vivement. « Tu ne te moqueras pas, au moins ? Grand-maman m'écrit en vers. Elle est très poétique et elle aime que je mette ici et là, quand je lui réponds, un distique ou un quatrain. Est-ce extrêmement bizarre ?»« Un peu, je crois, » dit Ferdine, ouvrant de grands yeux. « Ta grand-maman t'écrit en vers, et deux fois par semaine. » Elle ne compose pas tout elle-même. Si des vers qu'elle a lus lui paraissent beaux, elle les met dans sa lettre. « Je me doute bien, » fit Louise, baissant la tête, « que nous ne ressemblons pas à tout le monde. » Ferdine étendit sa main vers la feuille de papier. Oh, que les yeux de Louise furent alors dangereusement près de déborder, et comme ce lien d'amitié, tendre et fragile, allait se renforçant de minute en minute. L'orthographe de Million était défectueuse, nous ne la transcrirons pas. « Chère grand-mère, » disaient les lignes tracées sur un papier fort ordinaire, un papier vergé de bleu à carreaux, dont Ferdine n'eût point voulu pour sa propre correspondance. « Chère grand-mère, je vous remercie bien de m'avoir mise à bonne grâce. Je m'aperçois que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre, surtout les usages du monde et la géographie et l'histoire et tout le reste. Nous aurons prochainement une petite soirée. De plaisirs innocents, notre maison est pleine, mais je figure mal dans mes robes de laine. Et je serai obligée, je crois, d'avoir une robe plus jolie. Permettez-moi de la commander ici. Le goût est différent, à bonne grâce, de ce qu'il est à Château Pointu. Et puis, chère grand-mère, écrivez à mon tuteur et priez-le de donner mon argent à quelqu'un de la famille, au cousin Gousset, par exemple. Je ne garderai que mon argent de poche et de quoi finir mon éducation, parce qu'elle m'appelle Million et que la seule fille que j'aime ne veut pas m'aimer, disant que je suis trop riche. Au lieu de toutes ces richesses, mon cœur soupire en vérité après les divines tendresses et les joies de l'amitié. Le dernier vers est faux, n'est-ce pas ? Dit Louise, penchée sur l'épaule de Ferdine et relisant avec elle, très péniblement, car l'obscurité s'épaississait, sa prose et ses vers. J'étais en train d'y remettre une syllabe quand tu es entrée. Oh, Ferdine, cette douceur de te dire tu. Douceur, voilà le mot qu'il me faut pour que le vers soit juste. Et les douceurs de l'amitié. Réellement, dit Ferdine, frappée de quelque respect, tu mets de la poésie comme cela dans toutes tes lettres, et cela te vient tout seul. Moi, je n'ai jamais composé un vers de ma vie, je n'aurais pas même osé. Oh, j'en composerai tant qu'on voudra. Je ne puis pas m'en empêcher. Je tiens cela de grand-maman. Mais ta seconde condition, Ferdine. Je suis pressée de la savoir et le cœur me bat néanmoins. Ne la fais pas trop difficile, Ferdine. Je t'en supplie. Il s'agit justement de ton argent et c'est ennuyeux à dire. J'en rougis, tu vois, s'écria Ferdine avec impatience, passant la main sur sa joue. « Afin que personne ne puisse me croire intéressé, tu ne me parleras plus jamais de bagues, tu ne me feras jamais de cadeaux. »« Jamais, Ferdine !» implora son ami. « Pas même à ta fête ?»« Tu ne sauras pas quand est ma fête. »« Mais je le sais déjà, je l'ai demandé à Mademoiselle Octavie. »« Eh bien, tu me donneras une petite chose insignifiante, telle que je pourrais t'en donner, moi. » « Mais alors tu me croiras avare. »« Pas le moins du monde, je sais bien que tu ne l'es pas. »« Dis à présent la troisième condition, » soupira Louise, trouvant que les horizons de l'amitié s'assombrissaient. « Il n'y a pas de troisième condition, je l'ai ôtée. »« Quel bonheur ! Oh, quel bonheur ! Et maintenant je peux t'aimer, ma Ferdine !» Depuis quelques minutes, la salle était complètement sombre. Les autres pensionnaires avaient fermé leur buvin et causaient à voix basse. La tête de Louise se pencha sur l'épaule de Ferdine et Ferdine ne dit rien. Mais tout à coup, les deux lampes électriques, l'une au-dessus de la table, l'autre vers le fond de la pièce, s'allumèrent d'elles-mêmes, une main frôlant près de la porte, ayant pressé discrètement le bouton. « Tableau vivant !» dit Laure Grisel, qui n'était point méchante, mais seulement un peu malicieuse. « Vous avez raison, Ferdine, la pauvre Million dépérissait et il n'y a que vous qui compreniez sa maladie. »« Isaline Monnier leva ses yeux myopes, entrevit un groupe d'apparence fort intime et réprima. Oh, réprima bien vite, car c'était une excellente fille, très soigneuse de sa conscience, un léger mouvement d'envie. Pour elle, qui avait si peu d'argent et qui souhaitait tant de livres, une amie riche et généreuse eût été juste ce qu'il fallait. Ferdine surprit ce regard, le comprit à moitié, et elle pensa toute joyeuse : « Je donnerai des idées à millions !»